Voilà, bonjour à tous. Je suis heureuse de vous accueillir ici au Centre Sèvres et très heureuse aussi d'accueillir l'association Paul Ricoeur. C'est la seconde fois que nous montons un colloque ici ensemble. Et la fois précédente, peut-être certains d'entre vous avaient participé à ce colloque, le colloque s'intitulait « Paul Ricoeur, mal et pardon ». Et nous avions à cette occasion-là publié un inédit de Paul Ricoeur, « Logique, éthique et tragique du mal » chez Saint-Augustin. C'était en 2013. Le volume est maintenant publié et il est en vente d'ailleurs si vous le souhaitez ici, avec l'inédit de Paul Ricoeur. Vous pouvez le trouver à l'accueil si vous le souhaitez. Je voudrais dire simplement quelques mots en guise d'introduction de des activités de la faculté de philosophie au Centre Sèvres, notamment, non pas tant des cours réguliers que des soirées que nous pouvons organiser, pour que si vous en avez l'intérêt et la possibilité, vous puissiez participer à telle ou telle de ces soirées. Donc nous avons eu très récemment une soirée avec Bruno Latour, c'était au moment de la parution de son livre « Face à Gaïa ». C'était le 15 octobre, mais nous avons très prochainement une soirée sur un thème un peu voisin du thème abordé aujourd'hui. Raison et religion font-elles bon ménage? Ça sera à l'occasion de l'apparition de la traduction en français par Laurent Gallois de La religion dans les limites de la simple raison de Kant, avec Monique Castillo et Raphaël Ersam, et puis bien sûr Laurent Gallois. Nous aurons aussi, un peu après, le 10 février, deux professeurs de l'université de Canton, l'université Sun Yat-sen, Thierry Ménard, qui est français, et Zhu Gang, qui est chinois, qui viendront nous parler de traductions croisées, si je puis dire, puisque l'un a traduit Lévinas en chinois et l'autre a traduit Liang Shuming en français. Et nous réfléchirons un peu aux enjeux de cette réception croisée, si je puis dire, des œuvres des auteurs d'un auteur chinois ou d'un auteur français dans l'autre pays. Encore une autre soirée que je vous indique et je m'arrêterai ensuite. Un peu plus tard, ce sera le 9 mars, le mercredi 9 mars à 19h30, nous aurons une soirée avec Laurent Lavaux. La mystique est-elle une fuite du monde? Je vous signale d'ailleurs que toutes ces soirées sont ensuite rediffusées, enfin, dans la majorité des cas, ça dépend bien sûr si les intervenants le acceptent ou non, mais on peut les écouter aussi sur le site du centre, donc même les soirées précédentes. Il y aura enfin une soirée autour du dernier numéro des archives de philosophie consacré à Michel Foucault, mais la date n'en est pas encore tout à fait fixée. Ce n'est que le début de la programmation pour janvier-février, mais donc soyez les bienvenus, en tout cas, chaque fois. Et pour aujourd'hui, je suis vraiment très heureuse d'accueillir l'association Paul Ricoeur et sur ce thème si important qu'est la croyance. Mais je vais laisser Jean-Louis Schlegel présenter le colloque et je donner d'abord la parole à Monsieur Didier Sicard qui va nous parler un tout petit peu de l'association.
Bien, en tant que président de l'association Paul Ricoeur depuis 18 mois, je voudrais vraiment remercier d'avoir le Centre Sèvres, dont on sait le retentissement national et international, et Isabelle Bochet qui nous accueille. Remercier Olivier Mongin et Jean-Louis Schlegel de l'organisation de cette débat-rencontre qui s'inscrit dans ce que l'association Paul Ricoeur souhaiterait faire chaque année. Elle commence, c'est le deuxième rencontre-débat organisée par l'association cette année. En avril dernier, c'était le soin. Là, aujourd'hui, c'est la croyance dans une situation tragique et qui permet justement de construire des repères. 2016 est déjà annoncé avec mars, Paul Ricoeur et la situation économique. Et puis, en novembre, Antoine Garapon, Paul Ricoeur et la justice. Donc, l'objet, c'est effectivement d'inscrire sans démagogie la pensée de Paul Ricoeur dans notre questionnement contemporain et de se saisir au fond de la richesse de cette pensée pour penser notre monde qui en a tant besoin, d'avoir au fond des repères qui soient autres que des repères médiatiques et un peu superficiels. Donc je remercie vraiment Olivier Mongin parce que ça paraît toujours très simple d'organiser un débat-rencontre, mais Cette journée devrait être particulièrement fertile avec les orateurs prestigieux, au premier rang desquels Michael Fessel, qui va faire la première intervention. En tout cas, merci d'être présent aujourd'hui.
Merci à Isabelle Bochet et Didier Sicard, et puis merci à vous tous de venir ce matin, ou cette journée, j'espère, pour la rencontre-débat autour de Paul Ricoeur avec le sujet « La croyance ». Cette rencontre-débat s'inscrit aussi dans le 10e anniversaire de la mort de Ricoeur, mais c'était en mai, donc on a un peu dépassé la date anniversaire. Le thème et le titre de cette rencontre, nous l'avions agité dès avant janvier 2015, mais évidemment, ils se sont imposés après les événements tragiques du 7 et du 9 janvier, et puis la marche du 11 janvier. Alors, est-il besoin d'un commentaire supplémentaire, évidemment, après les événements terribles du 13 novembre, et puis aussi, au fond, on peut faire mémoire de tant d'autres événements tragiques au Proche-Orient et ailleurs. De ce fait, on peut dire que très tristement, finalement, cette rencontre est aussi un hommage aux victimes de toutes ces tueries. Vous le savez, il y a un vif débat en cours pour savoir s'il s'agit, dans cette violence en France, en tout cas, mais même peut-être ailleurs, il y a un débat pour savoir s'il s'agit d'abord et prioritairement de l'islam ou s'il s'agit encore d'autre chose. Alors, cette question ne fait pas l'objet de cette rencontre, sinon assez latéralement, peut-être cet après-midi. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que la croyance ou des croyances sont impliquées, finalement, d'une façon ou d'une autre, dans ces massacres et ces événements terribles. Donc nous avons pensé que la réflexion fondamentale de Ricoeur sur la foi et la religion, surtout dans les années 50 et 60, il y en a encore eu d'autres ensuite, mais c'est surtout dans ces années-là qu'il a réfléchi sur la religion et la foi, donc que ces réflexions pouvaient éclairer l'énigme du mot croyance. Comme le sens de cette rencontre est précisé dans l'argument qui accompagnait son annonce, je n'en dirai pas plus. Donc cette matinée sera consacrée à trois facettes de la pensée de Ricoeur sur la religion, avec des exposés de Michael Fessel, d'Olivier Mongin et de Guilhem Cosse. Alors, comme nous tenions malgré tout à ne pas nous dérober en quelque sorte devant l'actualité violente de la croyance, nous avons choisi non pas de continuer l'après-midi la discussion du matin autour de Ricoeur, mais de faire état de réflexions plus actuelles peut-être, mais surtout peut-être plus anthropologiques sur la situation religieuse qui s'est imposé à partir des années 70. De là, ma propre intervention sur Michel de Certeau cet après-midi, et puis ensuite celle d'Olivier Roy sur la période toute récente à partir de son livre sur la sainte ignorance. Nous ne pouvions évidemment pas prévoir ce qui s'est passé, c'est trop évident, mais vous savez à quel point Olivier fait quand même partie des éclaireurs les plus lucides sur les événements récents. Donc même si son thème n'est pas non plus l'explicitation ou le commentaire sur les tueries récentes, nous pourrons probablement l'interroger éventuellement sur ce qu'il comprend de cette situation présente, de la croyance et de ses effets, hélas, tragiques. Est-ce que tous les effets de la croyance sont tragiques? Je ne le pense pas justement, mais c'est aussi peut-être de cela qu'il faudra parler. Donc, Michael Fessel va nous parler de la foi entre mal et consolation. Comme on a déjà cité son livre, je ne le refais pas. Puis on l'a vu un peu dans les médias ces temps-ci, donc c'est le temps de la consolation. Merci, Michael.
Merci Jean-Louis et Olivier pour cette invitation. Alors, effectivement, je vais traiter de la question de la foi chez Paul Ricoeur, mais en me concentrant sur un segment de son œuvre, un segment historiquement déterminé, qui est celui des années, de la fin des années 60 ou du début des années 70, et d'un ensemble de textes qui tournent ou qui sont repris dans le conflit des interprétations et qui tournent justement sur la question du statut de la foi, et en particulier de la recherche de ce que, dans un de ses textes, qui s'appelle « Religion, athéisme, foi », Paul Ricoeur appelle, je le cite, « une foi post-religieuse » ou, autre citation, « une foi pour un âge post-religieux ». Et de ces citations, il ressort déjà que Ricoeur va, sinon opposer, du moins distinguer la foi de la religion et s'interroger en particulier sur les effets en retour de ce qu'il appelle foi sur le fait religieux. Et ce que je vais essayer de montrer ici, c'est premièrement que la foi chez Ricoeur a un sens et une fonction critique à l'égard de la religion comme tendance de, disons, tentation de la dogmatisation de la croyance, d'une part, et puis dans un, et puis je montrerai aussi, ou j'essaierai de montrer, par quel chemin, par quel biais, puisqu'on sait que chez Ricoeur, le chemin l'emporte en importance sur le résultat, par quel chemin Ricoeur en arrive à cette thèse selon laquelle, ou à cette conviction, selon laquelle la foi peut non seulement survivre à un âge séculier, mais d'une certaine manière jouer un rôle de vigile par rapport à ce que l'on peut, et là je rejoins évidemment le contexte actuel, ce que l'on peut considérer comme un dogmatisme religieux. Mais un mot évidemment sur cette formule « foi pour un âge post-religieux » qui ne manque pas de frapper par son caractère anachronique. Il faut se souvenir que Ricoeur, à ce moment-là, écrit dans une perspective qui est historique, qui est celle des années 50, 60 et encore 70, c'est-à-dire celle où triomphent les discours sur la sécularisation et le thème, disons, de l'athéisme. À certains égards, notre situation est inversée, puisque nous sommes aujourd'hui bien loin d'un âge dit post-religieux, et que d'une certaine manière, ce qu'il nous est donné à penser, c'est plutôt une forme de retour, bon, le terme est évidemment galvaudé, du religieux, mais dans lequel, évidemment, la question de Ricoeur demeure entière. Qu'en est-il véritablement de la foi à l'intérieur de ce retour, si tant est que le mot soit évidemment admissible. Autrement dit, la tentative de Ricoeur ne demeure pas moins actuelle, du fait même que nous avons peut-être abandonné cette idée selon laquelle l'athéisme s'imposerait naturellement, en quelque sorte, dans des sociétés contemporaines et technicisées, mais son ambition d'aborder la croyance comme une modalité existentielle avant de l'aborder comme un lien fondamental avec la vérité, cette conviction mérite d'être réinvestie aujourd'hui à nouveau frais. Je le dis d'emblée, il y a, je crois, deux chemins pour Ricoeur, ou Ricoeur emprunte deux chemins pour parvenir à cette fin, c'est-à-dire, encore une fois, désimpliquer en quelque sorte la question de la foi de la question de la vérité ou de la vérité théologique. Le premier, c'est de, et je n'en parlerai pas, sauf pour l'évoquer maintenant, le premier consiste à penser la foi ou une foi qui fasse l'épreuve de l'athéisme radical, et les deux grandes figures qui sont convoquées dans les années 50-60, c'est Nietzsche et Freud. Et si je n'en parlerai pas, c'est parce que je crois qu'Olivier Mongin, précisément, en fera l'objet de sa communication. Je parlerai d'un autre chemin qui est toujours d'ailleurs parallèle au premier, en quelque sorte, chez Ricoeur, dans les mêmes textes, parfois, y compris dans celui que je viens de citer, « Religion, athéisme, foi », où il faut effectivement entendre la scansion comme, en quelque sorte, directionnelle. Hein, on passe de la religion à l'athéisme et de l'athéisme à la foi. L'autre chemin passe par une réflexion radicale sur le sens éthique et existentiel de la croyance religieuse, et en particulier, d'où le titre de mon intervention, il s'agit pour Ricoeur de penser la religion à l'épreuve de ce qu'il appelle dans ce texte, d'une part, l'accusation, donc la problématique du mal, et d'autre part, c'est le mot qu'il emploie, la consolation. Et dans les deux cas, dans les deux voies suivies, je suis frappé par le fait que Ricoeur tente d'aborder la foi d'une manière en quelque sorte, j'ose le mot, athéologique en un mot, c'est-à-dire d'aborder la foi en se tenant autant que possible à distance du nom de Dieu, dont évidemment Ricoeur n'ignore rien de la charge potentiellement dogmatique. Un des faits, je dirais, des faits de lecture les plus étonnants quand on lit Ricoeur, probablement, en dépit du fait qu'il ait été réputé pour un penseur, comme étant un penseur protestant, c'est qu'il n'y a pas de théologie ricœurienne au sens strict du terme. Il n'y a pas de théologie ricœurienne. Il y a en revanche évidemment une exégèse ricœurienne. Il y a une réflexion de Ricœur sur la foi, on va le voir, et sur la religion. Mais si on entend par théologie, évidemment théologie rationnelle c'est exclu, mais même une théologie qui vise à déterminer le sens même de la révélation à partir d'une dogmatique ou d'une étude des textes, eh bien nous n'en trouverons pas. Et pour autant, chez Ricœur, il n'y a absolument pas non plus l'abandon du projet d'envisager la foi comme une instance existentielle incontournable en tant qu'elle est précisément critique à l'égard de toutes les formes advenues de la religiosité, en particulier les formes institutionnelles. Et je voudrais montrer donc que c'est précisément parce que Ricœur part de la question du mal pour envisager la... pour envisager le fait religieux, qu'il se mette en position, d'une certaine manière, de penser la foi au-delà de toute forme de théologie. Alors, pourquoi le mal constitue-t-il en quelque sorte une voie d'entrée privilégiée, ou la question du mal constitue-t-elle une voie d'entrée privilégiée dans celle de la foi ? Ici, Ricœur, et ça sera un peu le fil conducteur de ce que je dirais, met ses pas, place ses pas dans les pas de Kant, puisqu'il a été fait référence déjà à la religion dans les limites de la simple raison, à savoir que pour lui, ce que j'appelle la dédogmatisation de la foi religieuse ou de la croyance religieuse passe par l'examen de ce qui situe la religion sur un plan anthropologique. Et ce qui situe la religion sur un plan anthropologique, c'est précisément l'existence du mal. L'idée commune à Ricœur et à Kant, c'est que du fait de sa profondeur, je préciserai quelle est la nature de cette profondeur dans un instant, du fait de sa profondeur, le mal appelle une rétribution ou une espérance qui ne sont justement pas seulement de nature morale, qui ne sont pas seulement de nature rationnel, au sens en tout cas étroit du terme rationnel, mais qui installe d'emblée l'exigence de libération du mal ou l'espérance elle-même sur un plan religieux. Ce qui fait que, parce qu'évidemment il ne suffit pas d'envisager la religion à partir du mal ou de la question du mal, voire évidemment a fortiori à partir de la question du péché pour en faire une instance critique à l'égard du religieux, ce qui fait que, selon moi du moins, Ricœur pense la foi ou aborde la foi comme une instance critique, c'est qu'il envisage le mal tout au long de son œuvre d'ailleurs à l'aide ou sous les auspices, si je puis dire, de la catégorie de contingence. Lorsqu'il écrit un texte beaucoup plus tardif, « Le mal, un défi à la philosophie et à la théologie », le défi en question, pour la philosophie comme pour la théologie, c'est précisément de conserver au mal son caractère fondamental de contingence, je dirais, et on va voir ce que cela veut dire dans un instant, en dépit de toutes les tentations qui consistent à en faire un fait nécessaire, ou plutôt d'ailleurs une conséquence ou une dimension nécessaire de la condition humaine. Ricœur insiste sur la contingence du mal parce que il veut maintenir le caractère de scandale du mal, c'est-à-dire se refuser à tous les récits et toutes les dogmatiques qui lui, ou toutes les gnoses, je le dirais d'emblée, qui lui conféreraient un statut nécessaire et qui d'une certaine manière justifieraient son existence. La thèse fondamentale de Ricœur, c'est que le mal désigne ce qui devrait ne pas être et par conséquent ce qui pourrait ne pas être et donc un fait fondamentalement contingent. La modalité pratique du mal décide en quelque sorte de sa modalité logique. Je cite Ricœur, c'est dans justement le mal un défi à la philosophie et à la théologie, Ricœur écrit, « Pour le mal, l'action est avant tout ce qui ne devrait pas être, mais doit être combattu. Autrement dit, la contingence du mal est une condition pour la qualification du mal comme ce qui doit être combattu et comme ce qui relève de la liberté des hommes et pas seulement de la volonté de Dieu. Cet énoncé, le mal, c'est ce qui ne devrait pas être et c'est ce qui, par conséquent, pourrait ne pas être, apparaît trivial, mais il résonne comme la conclusion du long travail qui est constamment repris et amendé par Ricoeur sur cette question de ses premiers écrits, la symbolique du mal, jusqu'à celui que je viens de citer, le mal, un défi à la philosophie et à la théologie, qui est tardif. La thèse que Ricoeur, à mon sens, développe est la suivante. Envisager la foi comme une réplique au mal qui respecte sa contingence, qui tient compte de sa contingence, c'est précisément ce qui va lui permettre aussi d'envisager la foi comme une instance critique. Et la foi qui réplique à la contingence du mal, c'est précisément ce que j'appellerais, je le dis aussi pour Jean-Loup Thébault, consolation, c'est-à-dire une manière de se référer au scandale qui transige pas avec le caractère scandaleux et irrationnel du mal, du tort, de la souffrance. Si la foi devient un instrument critique à l'égard de la religion, en particulier dans sa dimension institutionnelle, eh bien c'est précisément parce que le mal n'est pas un fait dont on puisse rendre compte de manière explicative, de manière pleinement rationnelle ou du point de vue d'une révélation. L'un des points d'adversité très puissant de Ricoeur dans sa théorie du mal, c'est justement la gnose, c'est-à-dire l'ensemble des tentatives pour, comme leur nom l'indique, pour expliquer le mal en le fixant dans un destin quasiment métaphysique, et ce que l'on constate souvent, puisqu'il est lui-même, il l'a lui-même assumé, à savoir l'agnosticisme de principe de Ricoeur en matière de philosophie, à mon sens, trouve sa source dans sa réflexion sur le mal, en tant que Ricoeur, tout comme Kant d'ailleurs, cherchera à désimpliquer le mal de la métaphysique. Un autre point qui explique pourquoi la foi ne sort pas, si je puis dire, indemne de son ancrage dans la question du mal, c'est évidemment que, pour Ricoeur, et là je renvoie aux premiers travaux, à la symbolique du mal, la rencontre entre la question philosophique du mal et le religieux en général, se fait dans ou par la médiation du discours religieux ou, pour plus précisément, de l'aveu de la faute. Autrement dit, et ça c'est un point que l'on va trouver tout au long de la pensée ricœurienne, même si Ricoeur envisage la foi comme, je reviendrai sur ce terme, un fait existentiel, il ne la thématise jamais directement à partir de ce qu'on pourrait appeler une anthropologie fondamentale dans un style, disons, heideggerien ou même Bultmannien, il l'envisage à partir des textes, des discours, des paroles, en l'occurrence les paroles de l'aveu, dans lesquelles sont déposés les témoignages humains sur la faute, la souillure ou l'injustice. Il n'y a pas, par conséquent, de discours sur le mal, ni d'ailleurs sur la religion qui tente d'y apporter une réponse, qui ne soit pas médiatisé, de discours philosophique, qui ne soit pas médiatisé ou qui n'exige pas le retour par la symbolique du mal. En effet, et on n'a pas quitté le terrain de la contingence du mal, ce qui apparaît à Ricoeur nécessaire, c'est de montrer pourquoi il existe une tension entre la contingence du mal, le fait donc qu'il aurait pu ne pas être commis, et puis d'autre part, le fait que dans les symboles ou dans les déclarations ou dans les discours dans lesquels il est avoué, il est parfois même revendiqué d'ailleurs, le mal apparaît comme nécessaire. Je cite Ricoeur, c'est la symbolique du mal, « Le mal, c'est ce que j'aurais pu ne pas faire, et cela reste vrai, mais en même temps, j'avoue. » Le mal est cette captivité antérieure qui fait que je ne peux pas ne pas faire le mal. Cette contradiction est intérieure à la liberté. Elle marque le non-pouvoir du pouvoir, la non-liberté de la liberté. Autrement dit, il y a une tension entre la thèse philosophique centrale sur la contingence du mal, le mal c'est ce que j'aurais pu ne pas faire, et la manière dont il s'atteste dans les discours bibliques, en particulier dans les discours de l'aveu, comme étant une sorte de puissance, il n'y a qu'à penser à la figure du serpent, qui précède mes actions, qui précède mes choix. Le seul moyen de préserver dans ces conditions la contingence du mal, tout en reconnaissant sa profondeur, c'est de le déclarer comme Kant insondable dans son origine, inconnaissable dans son origine, tout en faisant droit à la symbolique ou à une symbolique qui le présente comme quasiment nécessaire, c'est-à-dire du point de vue, disons, d'une sorte de d'anthropologie fondée sur la précédence du péché originel, comme son nom l'indique, c'est-à-dire qui précède chacun de nos actes. Si j'ai choisi la question du mal pour envisager celle de la foi, c'est précisément parce qu'on a avec d'un côté le symbole du mal et de l'autre le dogme du péché originel, on a une bonne expression, je crois, de la dualité à laquelle Ricoeur veut échapper, c'est-à-dire précisément du souci qu'il a de ne pas passer trop rapidement du symbole du péché originel à l'affirmation dogmatique de la corruption généralisée ou de l'espèce humaine. Pour échapper à ce que Ricoeur appelle les apories du commencement, comment expliquer ou par quoi la philosophie, sur quoi la philosophie doit-elle s'appuyer pour initier son discours, eh bien pour répondre à ces apories du commencement, qui sont aussi des apories qui touchent la théologie, Ricoeur propose, on le sait bien, de partir du plein du langage, c'est-à-dire de partir du discours symbolique tel qu'il existe et tel qu'il est déposé dans les grands textes, en particulier pour ce qui nous concerne évidemment la Bible, en précisant que ce langage est justement symbolique de part en part et que par conséquent, la conscience ne se livre, la conscience de faute en l'occurrence, ne se livre qu'en se voilant et jamais dans une transparence qui lui permettrait de dogmatiser. Donc j'ai fait ce détour par les préalables méthodologiques de Ricoeur dans la question pour aborder la question du mal pour bien rendre sensible au fait que Ricoeur ne construit jamais une anthropologie directe, si je puis dire, ou par la voie courte de la foi, mais qu'il s'interroge sur la foi à partir des expressions de la foi, et en l'occurrence ici, celles qui ont lien avec la faute, et en montrant que ces expressions sont des expressions qui sont symboliques de part en part, autrement dit qu'elles appellent déjà une interprétation, et c'est le point absolument central selon moi, à savoir que dire que la foi est un fait existentiel et pas d'abord une position épistémologique, si je puis dire, cela n'exclut pas de dire en même temps, et c'est Ricoeur tient les deux bouts si je puis dire, que la foi est interprétante. C'est-à-dire qu'elle, avant d'affirmer ou de nier, avant de se livrer à un credo qui serait de nature théologique, eh bien la foi se dit d'abord dans une auto-interprétation du propre statut, je dirais, de la condition humaine et de son rapport à Dieu. L'homme, écrit Ricoeur, je cite la symbolique du mal, l'homme n'accède à sa propre profondeur que par la voie royale de l'analogie, fin de citation, c'est-à-dire que, indirectement, à l'aide des symboles par lesquels il se réfère à lui-même et à son rapport à la transcendance. Alors, je ne referai pas ici, évidemment, faute de temps, et d'ailleurs, ça n'est pas nécessaire pour mon propos, l'ensemble du parcours que Ricoeur propose dans la symbolique du mal. Je voudrais simplement encore insister sur un point qui est le deuxième moment après la reconstitution de cette symbolique qui mènera, disons, au quasi-concept de serf-arbitre qui justement épouse très bien ce paradoxe entre un mal qui est voulu et fait librement, l'arbitre, et qui en même temps me précède toujours déjà dans sa possibilité, c'est la servitude du serf-arbitre. Eh bien, je voudrais me dire un mot du deuxième moment de l'interprétation symbolique de Ricoeur, c'est-à-dire celle où il s'interroge désormais sur les mythes d'origine du mal. Le mythe adamique, évidemment, ayant ici une place absolument centrale. Or, avec la question du mythe, on se retrouve plus encore dans la tension que j'indiquais en commençant, c'est-à-dire qu'évidemment, les mythes sur l'origine, particulièrement ceux qui portent sur l'origine du mal, peuvent être pris d'un point de vue, je dirais, littéral, et dans ce cas, le mal apparaît comme une conséquence nécessaire, en quelque sorte, soit de la chute, soit d'une sorte de catastrophe métaphysique, ontologique initiale, et de ce point de vue-là, c'est la contingence du mal qui se trouverait abolie dans la dogmatique mythologique. On sait bien que le geste de Ricoeur, sur ce point, à cette époque, je dirais, et a fortiori plus tard, consiste à démythiser le mythe, c'est-à-dire, pour être un peu plus précis, à l'envisager selon sa teneur narrative plutôt que selon sa teneur dogmatique. Je cite Ricoeur, toujours la symbolique du mal, « Le mythe est un récit, précisément parce qu'il n'y a pas de déduction, de transition logique entre la réalité fondamentale de l'homme et son existence actuelle, entre son statut ontologique de créature bonne et destinée au bonheur et son état existentiel ou historique vécu sous le signe de l'aliénation. Fin de citation. Démystifier le mythe, je l'ai dit, a toujours signifié aux yeux de Ricoeur s'élever contre la tentation de la gnose, ce qu'il appelle aussi un simulacre de la raison, qui vise encore une fois à nier la contingence du mal en l'identifiant avec la structure même du monde. Et on pourrait évidemment montrer, je n'ai pas le temps de le faire, que ce que Ricoeur, ou la critique que Ricoeur adresse aux interprétations dogmatiques du mythe, sera reprise sous une autre forme lorsqu'il proposera à plusieurs reprises une critique de la théodicée, c'est-à-dire de l'ensemble des discours théologiques qui visent à disculper Dieu en inculpant l'humanité pour la responsabilité de la faute. Au terme de ce détour par la question du mal, je crois que le point fondamental, c'est que la foi, qui précisément s'atteste, et pour Ricoeur ne s'atteste d'abord que dans des discours symboliques, symboles stricto sensu ou mythes, eh bien cette foi, on le voit, est agnostique dans son essence, si par agnostique on veut dire incertaine, ou retardant aussi loin et aussi longtemps, parfois trop longtemps pour certains, que possible, l'affirmation d'une une affirmation qui pourrait être reprise par un savoir philosophique. Si Ricoeur multiplie les préalables, si, comme on le lui a souvent reproché, il multiplie les détours, c'est, je crois aussi, sur cette question précisément, pour éviter que les affirmations de la foi soit deviennent plus exactement l'objet d'une métaphysique. Et j'entame mon deuxième et dernier point, qui porte sur ce qu'on pourrait appeler une épistémologie de la foi chez Ricoeur, toujours dans ce segment historique qui est celui des années 50 et 60, et en particulier sur le fait que le détour par la question du mal, ou de l'aveu plus exactement d'ailleurs, de ce détour, Ricoeur va tirer un certain nombre de conclusions quant au rapport, cette fois-ci, entre la foi et la vérité, conclusions qui ne seront pas sans conséquence sur, et je conclurai ensuite là-dessus, ce que la foi peut avoir de critique à l'égard du fait religieux. Sur ce point aussi, mais c'est beaucoup moins connu, Ricoeur, à mon avis, est très proche de Kant, pas seulement sur la question du mal, mais sur celle de la question épistémologique de la foi, puisque Kant, je le rappelle trop rapidement sans doute, Kant donne un statut, confère un statut à la croyance, y compris dans sa dimension religieuse, en faisant une modalité de ce qu'il appelle, ou ce qu'on traduit sous le terme de créance, le terme allemand qu'on traduit par le vocable créance, c'est für wahr halten, c'est-à-dire le tenir pour vrai. Donc la croyance religieuse est une modalité, mais une seulement des modalités, du für wahr halten, du tenir pour vrai. Ce qui intéresse Kant, d'ailleurs, et c'est un point commun avec Ricoeur, ce n'est pas la vérité de la foi. Il n'y a pas de théorie de la vérité chez Kant, il n'y en a pas d'ailleurs davantage chez Ricoeur. Ce qui l'intéresse, c'est une analytique du tenir pour vrai, c'est-à-dire des modalités subjectives du rapport, du rapport que nous entretenons avec les affirmations théoriques. Ricoeur se réfère assez peu à cette théorie du tenir pour vrai, mais lorsqu'il le fait, c'est toujours de manière positive. Je rappelle simplement le point essentiel, à mes yeux du moins, à savoir que lorsqu'il fait la typologie des modalités du tenir pour vrai, dans la critique de la raison pure, Kant distingue l'opinion, la croyance et le savoir. Il y a donc trois modalités du rapport, je répète bien, le terme est fondamental, entre le sujet et ses affirmations. L'opinion, c'est ce qui, dit Kant, est objectivement insuffisant et subjectivement insuffisant. Le savoir scientifique, c'est ce qui est objectivement suffisant et subjectivement suffisant, puisque démontré. Et, bon, on l'aura compris, la croyance, c'est ce qui est objectivement insuffisant et subjectivement, en revanche, suffisant. Dans tous les cas, la croyance, je cite Kant, est liée, et on n'a pas quitté la question que j'ai posée en commençant, la croyance est donc liée, je cite, à la conscience de la contingence ou de la possibilité du contraire. Autrement dit, la croyance, et c'est sous ce titre-là que Kant envisage la foi, la foi religieuse rationnelle, celle qu'il défend, la croyance est subjectivement suffisante, puisque celui qui croit n'a pas à, et ne pourrait d'ailleurs, serait bien en peine, de confronter l'objet de son affirmation à un réel, mais elle est objectivement insuffisante, puisqu'il n'y a pas de foi démontrée, il n'y a pas de démonstration de l'existence de Dieu pour Kant, pas plus que pour Ricoeur, on le sait bien. Mais ce qui est très important dans cette typologie, c'est qu'à y bien réfléchir, la croyance religieuse est plus éloignée de l'opinion et du savoir que l'opinion n'est éloignée du savoir. Puisque, somme toute, le savoir, c'est de l'opinion transformée en certitude objective. Je rappelle, l'opinion est subjectivement insuffisante et objectivement insuffisante. Il ne reste donc plus qu'à la démontrer, si je puis dire, pour qu'elle devienne un savoir. Tandis que le caractère subjectivement insuffisant de la foi est structurel, objectivement pardon, insuffisant de la foi est, pour Kant, comme pour Ricoeur, structurel. C'est-à-dire que la foi ne recevra jamais de la métaphysique, de la philosophie ou de la science a fortiori, un renfort en objectivité. La foi n'est donc pas en attente d'objectivation. Elle ne désigne nullement un pas encore de la connaissance, parce qu'elle est essentiellement subjective et que son aveu, en quelque sorte, ne se fait, là je change de registre par rapport à Kant pour rejoindre Ricoeur, son aveu se fait dans la crainte et le tremblement. La crainte et le tremblement, d'abord, relativement à la teneur de vérité de ce qui est affirmé dans le credo. Si Ricoeur, me semble-t-il, reprend cette, pas exactement évidemment cette épistémologie ni cette typologie, mais reprend de Kant l'idée que la foi se dénaturerait à s'objectiver, c'est parce que, comme Kant, encore une fois, il a parfaitement saisi, et d'ailleurs explicité dans quantité de textes, en particulier dans un qui s'appelle « La liberté selon l'espérance », qui se retrouve aussi dans le conflit des facultés, qui a été repris dans le conflit des facultés, il a parfaitement intégré, ou plus exactement médité, le fait que Kant avait raison de montrer que la problématique de la foi, c'est-à-dire plus exactement d'ailleurs le champ de la foi religieuse, était parfaitement coextensif à celui de l'illusion transcendantale. Autrement dit, l'espérance religieuse porte sur des objets, disons pour l'instant, qui sont exactement ceux qui, dans la métaphysique, donne lieu à l'illusion transcendantale, Dieu, évidemment, l'âme et, dans une certaine mesure, le monde. Nous ne croyons religieusement, dit Ricoeur, ou explique en substance Ricoeur, nous ne croyons religieusement là où nous ne pouvons pas savoir, et là où le savoir, pour parler comme Kant, a dû laisser une place à la foi, et ne pourra jamais la lui reprendre. Mais évidemment, le fait que, du point de vue de Ricoeur, le savoir métaphysique ou théologique ne puisse jamais reprendre la place laissée vide par la critique de la métaphysique n'invalide pas, hélas, la tentation d'occuper à nouveau ces positions théologiques, Dieu, l'âme, le monde, le salut aussi bien, et évidemment, j'en ai parlé pour commencer, l'origine du mal, le statut du péché, de les occuper dogmatiquement. C'est bien pourquoi d'ailleurs, Ricoeur, et là on voit en quoi la foi telle qu'il la thématise, c'est-à-dire comme rapport symbolique et non pas rapport affirmatif, en termes disons de dogmatique, à Dieu, eh bien la foi a une fonction critique, parce que Ricoeur nomme pathologie de l'espérance l'ensemble des tentatives métaphysiques, mais surtout politiques, pour au fond faire fi du caractère très singulier de la foi d'un point de vue épistémologique et reconstituer une dogmatique sur la base de ce qui devrait demeurer dans l'incertitude. Les espaces ouverts par la foi, ou le champ même de la foi, touchent, et Ricoeur y est toujours sensible dans son œuvre, à ce qu'il y a de plus dangereux, de plus explosif, si j'ose dire, c'est-à-dire les tentatives de totaliser intellectuellement ou institutionnellement les espérances humaines. L'un des schèmes fondamentaux de la pensée politique de Ricoeur, c'est que sur le lieu même de la fragilité, ici, disons, la fragilité épistémologique de la foi, s'édifie aussi ou se constitue la possibilité du pire, C'est ce qu'on retrouve d'ailleurs aussi bien dans ce qu'il dit sur le mal politique, pardon, dans sa spécificité, c'est-à-dire qu'il y a dans la méconnaissance de la finitude humaine toujours un champ ouvert à ce qu'il n'appelle pas, mais qu'on pourrait tout aussi bien considérer comme une forme de totalitarisme. Je tire pour finir un certain nombre de conclusions quant à cette thématisation, cette approche du phénomène de la foi peut avoir d'utile, je dirais, sinon plus, aujourd'hui, et en tous les temps d'ailleurs, et je ferai trois séries de conclusions qui seront rapides. Premier point. Ricoeur est tout à fait étranger, je crois, à l'idée, enfin tout à fait, il est relativement étranger, à l'idée que l'on pourrait simplement sortir de ce qu'il peut y avoir d'intense et parfois de violent dans la foi religieuse par la simple neutralisation, disons, laïque ou même par la simple sécularisation de nos sociétés, autrement dit, par l'exigence qui consisterait à exiger ou contraindre même les croyants à mettre entre parenthèses leur foi au moment même où ils s'avancent dans l'espace public. Tout en étant un penseur de la laïcité, Ricoeur, je crois, a une position plus subtile que celle qui consisterait simplement à exiger que, précisément, si on reprend la terminologie que j'ai reprise moi-même, c'est-à-dire là où se situe le lieu de l'espérance, eh bien on pourrait simplement se contenter d'un discours, je dirais, du prosaïsme ou d'une pratique d'ailleurs parfaitement rationnelle et parfaitement laïque du vivre ensemble, comme on le dit aujourd'hui à tort et à travers. Je crois que si solution il y a de la part, ou si possibilité de solution il y a pour Ricoeur, de dédramatiser le rapport entre le sujet et ses croyances religieuses, elle ne passe pas seulement par la neutralisation de ses croyances, mais tout au contraire, je dirais, par l'approfondissement de la foi par ceux qui l'ont, jusqu'à ce que celle-ci fasse l'épreuve de sa propre incertitude. C'est-à-dire que puisque la foi comprise par tel que Ricoeur la comprend, c'est-à-dire par le détour symbolique, par le souci de maintenir la contingence du mal et par l'incertitude fondamentale qui la caractérise, alors il y a autant à espérer, je dirais, de l'approfondissement de chaque croyance religieuse jusqu'au point où elle est contrainte d'avouer son ignorance quant à l'essence de Dieu, pour dire les choses un peu massivement, que d'une neutralisation extérieure de la foi par les autorités publiques. Deuxième conclusion. La foi chez Ricoeur, on l'a vu, ne s'adosse pas à un savoir, mais plutôt à une épreuve. Et c'est ce qui explique à mes yeux pourquoi Ricoeur, dans le texte par lequel j'avais commencé, donc qui s'intitule « Religion, athéisme, foi », parle de ce qu'il appelle la foi tragique, ou appelle foi tragique, ce type de foi qui, précisément, ne repose plus sur une dogmatique théologique, et dont il fait le héros, de sens du mot d'ailleurs, selon les deux orthographes du mot. Job, évidemment, qui, ça va sans dire, n'est pas extérieur à la question du mal et de son rapport à Dieu. Dans ce que retient, Job est une figure récurrente chez Ricoeur, dans ce qu'il, il retient de Job, de la figure de Job, c'est plutôt la parole finale de Dieu, donc le moment supposé être celui de la consolation, précisément, et de laquelle, je cite, « Nulle théologie n'émerge de la tempête ». C'est Ricoeur qui parle. « Nulle théologie n'émerge de la tempête », c'est-à-dire que Dieu lui-même, dans le livre de Job, je n'ai pas besoin en ce lieu de refaire l'histoire, répondre à l'injonction de Job à se présenter à lui, eh bien, Dieu ne parle pas le langage de la théologie. Il n'explique pas, ne rend pas compte de sa propre action, ni a fortiori d'ailleurs de sa propre essence. Et de ce point de vue-là, il désactive, en quelque sorte, c'est du moins comme cela que Ricoeur le lit, il désactive ce qui est précisément ce qui se trouve condamné dans la protestation de Job, c'est-à-dire non pas le fait de protester contre l'injustice, mais le fait d'attendre de Dieu une explication, une gnose ou une justification du mal. Si la foi peut être une instance critique, si la foi tragique de Job peut être une instance critique, c'est parce qu'elle est, et Job en est la figure, mais Job est Dieu, si je puis dire, le Dieu du livre de Job en sont des figures représentatives, une protestation contre toutes les synthèses religieuses prématurées du sens. Dernier point, dernière conclusion sur la théorie de la, enfin sur le thème de la consolation. On le voit, la foi est donc bien une catégorie de la consolation pour Ricoeur, et j'opposerai ici, il le fait lui-même d'ailleurs dans d'autres textes beaucoup plus tardifs, consolation et réconciliation à propos de Hegel. Il parlera justement de la métaphysique dogmatique comme d'une, enfin de la philosophie de l'histoire, pardon, de Hegel, comme d'une réconciliation sans consolation. Bien, je dirais que, à l'inverse, la foi telle que l'envisage Ricoeur peut être tout au plus une consolation, mais sans réconciliation. Pourquoi ? Eh bien, précisément parce que, et là aussi, le Dieu du livre de Job n'apporte aucune réconciliation à Job, puisqu'il ne donne pas, ne livre pas le fin mot de l'histoire, c'est-à-dire, celle du pari qu'il a fait, ou plutôt que le diable a fait avec lui pour mettre à l'épreuve la foi de Job. Job ne saura rien ni de l'origine, ni des raisons de sa propre souffrance, et encore moins, je dirais, de l'ordre du monde. Et Ricoeur parle à ce propos de la nécessité d'une résignation, et je rapprocherai ici résignation, même si ça paraît paradoxal, de la consolation, car la résignation, c'est précisément le premier moment de la réconciliation, si par résignation on entend le fait de devoir résigner justement à un savoir de type métaphysique ou théologique sur Dieu. Mais cette résignation n'est pas pour autant abolition de tout discours. On voit bien qu'il y a plainte, ou il y a dans d'autres occurrences chez Ricoeur une insistance sur l'élégie, que par conséquent la foi n'est pas, ne devient pas muette de ne pas être adossée en quelque sorte à un savoir. Et pour tout dire, la foi de Job, la foi tragique dont parle Ricoeur, ce n'est pas une foi ou une croyance que, ce n'est pas une croyance en quelque sorte propositionnelle, c'est la croyance en, c'est-à-dire la croyance en une parole dont nous ne sommes pas maîtres et qui nous précède. Dieu, dans le livre de Job, ne parle à la fin ni de Job lui-même, ni de lui-même, mais il parle en quelque sorte du monde, il parle d'autre chose. C'est là, on connaît la fameuse épisode où il montre du doigt. Bon, pour Dieu, c'est... ou en tout cas, il désigne le Léviathan pour cette espèce de crocodile dragon comme signe de ce que précisément les voies du Seigneur sont impénétrables. Le moment cet épisode connu, on peut retirer, je crois, la conclusion que pour Ricoeur, le moment fondamental dans la foi post-religieuse, c'est le décentrement des attentes par rapport à, et c'est ce qu'il appelle peut-être de manière maladroite résignation, le décentrement des attentes par rapport à ce que nous avons coutume d'appeler vérité, justification ou même d'ailleurs théologie. De Dieu, on attendrait peut-être qu'il se dise, qu'il s'exprime et qu'il se dise dans un discours univoque. Or, on sait que Ricoeur montrera que quand il fera des textes qui sont ceux qui sont les plus proches d'une sorte de théologie, ceux qui se retrouveront en lecture 3 sur le nom de Dieu justement, que Ricoeur montrera qu'il y a une pluralité des nominations ou autonominations de Dieu dans la Bible et que par conséquent l'on ne peut pas en rester à un seul discours. Je conclus en une phrase en disant que ce que Ricoeur cherche, à mon sens, dans ces années 50-60, c'est précisément une foi qui, sur le lieu même de l'espérance, c'est-à-dire le lieu de la totalisation du sens, soit rétive, voire d'ailleurs subversive, à l'égard des synthèses prématurées de nature religieuse, institutionnelle, qui totalisent ce sens. C'est le moment 50-60 où Ricoeur est probablement le plus radical, puisqu'il cite, et là ça fait peut-être transition à ce que dira Olivier, il cite comme, paradoxalement, comme signe de cette consolation par-delà le savoir ou par-delà la réconciliation Nietzsche qui écrit, C'est Ricoeur qui cite Nietzsche dans ce texte, qui cite ainsi par les Zarathustra. Je cite, « Que l'homme soit délivré de la vengeance, c'est pour moi le pont vers la plus haute espérance et un arc-en-ciel après de longues intempéries. » C'est dans ce même contexte que Nietzsche lui-même parlera de consolation, de l'éternel retour comme consolation. La consolation, c'est justement que l'homme soit délivré de la vengeance. Et la vengeance, ici, je parle ici chez Ricoeur citant Nietzsche, plus que chez Nietzsche lui-même, la vengeance, c'est précisément tout ce qui peut porter le religieux ou la croyance religieuse vers le ressentiment, la haine, et l'affirmation dogmatique de sa propre certitude. Évidemment, Nietzsche, lorsqu'il parle de l'homme délivré de la vengeance comme étant sa plus haute espérance, pensait à ce qu'on pourrait appeler une foi du surhomme, la foi de celui qui, et le mot foi évidemment devrait peut-être ici être abandonné, puisque ce serait une foi d'après la mort de Dieu. Mais Ricoeur, qui n'envisage évidemment pas la possibilité de la foi du surhomme parce qu'il n'envisage pas la possibilité du surhomme, a néanmoins envisagé radicalement une foi qui, du fait de du fait de la nécessité des détours symboliques et enfin du fait de son statut épistémologique, une foi qui survive à la mort de Dieu. Voilà, je vous remercie.
Merci Michael. Nous sommes entrés dans le sujet comme un avion qui monte très vite. Hein. je donne la parole tout de suite à Olivier Mongin. Bon, Olivier, tout le monde le connaît, je crois, longtemps directeur de la revue Esprit et encore très présent dans cette revue et toujours vraiment, comment dirais-je, influencé. Intéressé par Ricoeur.
Oui, merci beaucoup Jean-Louis. D'ailleurs, je tiens à dire que c'est Jean-Louis qui a conduit un peu les opérations pour la journée d'aujourd'hui, essentiellement, avec Didier Sicard. Je voudrais intervenir simplement comme lecteur qui a eu l'occasion de relire, grâce à cette journée du Ricoeur, n'étant plus philosophe professionnel depuis longtemps pour les raisons qui viennent d'être dites. J'avais écrit un livre en 95, mais 1995, c'était Jean-Louis Schlegel, l'éditeur. Et donc, malheureusement, pas assez le temps de travailler professionnellement sur Ricoeur. Donc, voilà, l'occasion était fournie, donc je vais avancer à ma manière. J'ai titré cette intervention « Passage au pluriel par l'athéisme ». Pour essayer de suivre un parcours qui est suggéré plus que dessiné dans un texte déjà évoqué, « Religion, athéisme, foi », qui date de 1969, fin quand même des années 60. Période agitée qui trouble la société française, le milieu intellectuel et le monde religieux, on le sait. Dans un premier temps, je vais suivre ce texte à la trace pour essayer de comprendre pourquoi « passage » est au pluriel, car je trouve ce texte extrêmement énigmatique, très intéressant. Ce que j'aime chez Ricoeur, c'est un penseur souvent de l'intrigue et de l'énigme, justement. Lui-même, c'est très rare, peut être énigmatique, parce que les passages concernent à la fois, passage par l'athéisme, la philosophie, au sens de la métaphysique, et la religion. Donc la question qui est doublement posée va être posée, sans aucune confusion, comme d'habitude chez Ricoeur, à la fois à la religion et à la philosophie. L'énigme, elle est double de ce point de vue-là. Elle porte et sur la philosophie et sur la religion. Et ce qui est très, très intéressant, c'est qu'on va voir qu'il y a une énigme qui est déjà évoquée, l'énigme de l'origine, qui est une question qui demeure pour la philosophie comme pour la religion. C'est le problème de l'antériorité de l'origine qui n'est jamais réglée, même au départ, chez les présocratiques dans la philosophie grecque. Cette question de l'origine a été évoquée. Il y a toujours une antériorité de l'origine. C'est ça l'énigme. C'est cette capacité de repousser toujours la question de l'origine. Et c'est-à-dire qu'il n'y a pas une origine qui est un commencement. Pour le dire autrement, l'idée de quelque chose qui fait commencer le reste sans avoir soi-même un commencement, et la question même qui est posée par les Grecs comme par la religion. On va le revoir. Donc dans un premier temps, je vais tout simplement suivre à la trace Ricoeur. Et dans un deuxième temps, de manière très différente, relecteur, je vais, et modeste lecteur de tout ce pan ricœurien, qui est celui de penser la Bible, en fait, de penser au fond le temps biblique, je voudrais montrer toutes les pistes qu'on peut essayer de tirer de manière un peu rapide, mais la journée est faite pour ça, pour lancer un peu des pistes de travail. Donc un premier temps qui va être un gros plan sur un texte et un deuxième temps plus mise en perspective et travelling, je dirais. Le texte religion, athéisme, foi, appartient au dernier bloc du conflit des interprétations. Il y a 5 textes, ils ont déjà été évoqués, ils sont d'une puissance incroyable. Il y a la préface, Guillaume Cos y reviendra peut-être, au livre de Bultmann, Jésus, mythologie et démythologisation. Texte extrêmement fort. Il y a la liberté d'espérance, selon l'espérance déjà évoquée, culpabilité éthique et religion, religion, athéisme, foi, et un grand texte sur la paternité, qui est en fait un texte comment d'une certaine manière, convertir la figure du Dieu en figure d'un père qui soit un père aimant, un père fraternel, etc. Et là, il y a un texte très très fort, c'est justement tout ce qui a été évoqué sur la figure de Dieu. Donc on est dans un bloc de 5 textes, j'en tire un, on pourrait en tirer les autres, et il avance donc par scansion, toujours chez Ricoeur, Stanislas Breton, un grand ami de Ricoeur, très connu, un penseur que nous aimions beaucoup, disait toujours qu'il avait beaucoup de mal à suivre Ricoeur, qui était un penseur montagnard. Il disait, moi je vais directement au sommet, il avait écrit du principe, comme vous savez, et Ricoeur, lui, n'arrêtait pas effectivement d'essayer de trouver des chemins contournés. Et là, dans le cas de passage par l'athéisme, peut-être de trouver un col montagnard. Il y a une mise en intrigue dans ce texte, il y a des quasi-personnages, il y a 2 maîtres du soupçon, Freud, Nietzsche, beaucoup plus que Feuerbach. Il y a l'athée, mais l'athée ici est à la fois le philosophe et le croyant qui a effectivement critiqué la religion critiquable. Il y a des personnages qu'on va trouver dans les autres textes, pas dans celui-ci, mais c'est très important. Il y a celui qui est très peu cité, mais toujours présent, le puritain. C'est le croyant moraliste. C'est celui, effectivement, qui doit être dénoncé. Il y a le prédicateur, il y a le philosophe, il y a le prédicateur. Ricoeur se pose pas comme prédicateur, mais il explique toujours qu'il entend le prédicateur. Il y a la figure du prophète qui a évoqué, j'y reviendrai, qui est très importante. Qu'est-ce que c'est qu'un prophète? Je pense une question tout à fait décisive. Donc on a autour de la figure de l'athée des figures assez différentes. De quel athéisme va-t-il parler? C'est sa première question. À l'époque, il ne les évoque jamais, mais dans le monde plus catholique, celui qui était proche, par exemple, d'ici, d'un Daniel Hou, on évoquait beaucoup Klossowski, Bataille, Léris, le collège de sociologie. C'est quasiment jamais cité, Blanchot, chez Ricoeur. C'est très, très étonnant. Hein, c'est l'athéiste qui va intéresser Ricoeur tout de suite, on va le voir. C'est l'athéisme de celui qu'il appelle les maîtres du soupçon, essentiellement Nietzsche et Freud. Donc Ricoeur se démarque aussi pour réfléchir sur la croyance de la tradition positiviste française, Comte, ça ne l'intéresse que peu, même la tradition des Lumières, la question n'est pas la question voltairienne de la superstition, et lui qui connaît très bien Hume ne tient pas vraiment compte de l'empirisme britannique. Et donc, il se focalise sur les 2 maîtres du soupçon sur lesquels je vais revenir. 2 remarques simplement, avant d'entrer dans le texte, assez rapidement. Il y a quand même un grand texte de Ricoeur dans l'Encyclopédia Universalis qui aurait pu presque faire l'objet d'une intervention, qui s'appelle « Croyance ». Ça a été un peu évoqué déjà par Michael, où il va distinguer la croyance « opinion », ce qui renvoie au grec, à la « doxa », la croyance assentiment, ce qui renvoie à la volonté, c'est-à-dire à Descartes, et la croyance probabilité, c'est Hume. Enfin, la croyance foi. Vous voyez bien qu'on a là 4 types d'approches de la notion de croyance qui sont extrêmement diversifiées dans le contexte d'une histoire de la philosophie. Je voulais y insister. La deuxième remarque, qui est tout à fait décisive pour comprendre ce que j'essaie d'évoquer, qui est la chambre d'écho qu'il y a entre philosophie et religion dans la Pour Ricoeur, la philosophie trouve toujours sa source en dehors d'elle-même. Très important de comprendre ça. La philosophie, je cite, a toujours affaire à la non-philosophie, parce que la philosophie n'a pas d'objet propre. La philosophie a ses sources hors d'elle-même. Je dis ses sources, non pas son point de départ. La philosophie est responsable de son point de départ, de sa méthode, de son achèvement. Mais si elle cherche son point de départ, elle reçoit ses sources. Elle dispose de son point de départ, elle ne dispose pas de ses sources. Je pense que si on veut vraiment comprendre, chez Ricoeur, la question du rapport philosophie, non-philosophie, philosophie-religion, il faut bien comprendre qu'il y a déjà une réflexion sur la constitution du discours philosophique qui est tout à fait centrale. Je vais donner des exemples. La philosophie a son point de départ en elle-même, donc son commencement, mais elle trouve ses sources hors d'elle-même. Avant même les textes qu'on évoque là, des années de la fin des années 60, Ricoeur publie dans la revue Esprit une chronique que je trouve remarquable, qui s'appelle « Aux frontières de la philosophie ». C'est l'époque où Merleau-Ponty lui-même écrit « Philosophie et non-philosophie ». Vous voyez que cette thématique est très importante. Trouver ses sources hors d'elle-même, c'est-à-dire que Ricoeur réfléchit dans les chroniques en question sur des questions, par exemple, comme celle du prophétisme. Il travaille sur les textes d'André Néer pour montrer comment la philosophie peut effectivement tirer un gain d'une réflexion sur le prophétisme. De la même manière, on a déjà évoqué la foi tragique, la question du tragique est tout à fait centrale. J'insiste là-dessus pour comprendre la suite, c'est que le problème de la philosophie dans son rapport à la religion, c'est que on peut avoir le discours inverse d'une histoire de la philosophie complètement fermée sur elle-même. La philosophie trouve ses sources hors d'elle-même. Et ses sources, c'est des questions comme le tragique, c'est la question... non pas évoquer là du mal, mais la question du prophétisme. La question du prophétisme est quelque chose qui est central et on va la voir revenir. Très rapidement, Ricoeur a d'abord des propos qui consistent effectivement, comme toujours chez lui, à montrer que cette position intermédiaire de l'athéisme entre la religion et la foi, une fois de plus c'est le titre de l'article, religion, athéisme, foi, ce passage par l'athéisme est à la fois, comme il dit, une position intermédiaire, lui qui n'est pas un homme des médiations au sens strict, une position, je ne cite pas la référence, mais trop facile et trop difficile. Toujours cette espèce d'hésitation. Donc les deux maîtres du soupçon sont Nietzsche et Freud, non pas Feuerbach, on peut s'en étonner, mais Guillemco s'y reviendra peut-être tout à l'heure à propos de la démythologisation. Pourquoi, je cite juste une phrase, « Le mythe n'exprime pas la projection de la puissance humaine dans un au-delà fictif, mais bien plutôt la mainmise que l'homme opère par le moyen de l'objectivation et de la mondanisation sur son origine et sa fin. » On voit bien que la question de l'origine, là, est bien entendu tout de suite marquée. Mais vous voyez que ce n'est pas du tout la vision classique qu'on peut avoir de Feuerbach qui est retenue. Les deux maîtres du soupçon sont Nietzsche et Freud. Pourquoi ? Parce que l'un et l'autre critiquent les deux pièces maîtresses de la religion évoquées, le tabou et le refuge, l'interdiction et la protection. Les deux maîtres du soupçon critiquent les deux pièces maîtresses de la religion et renvoient aux deux pôles du sentiment religieux, la crainte d'un côté et la culpabilité et le désir de protection de l'autre. Donc l'athéisme trouve sa raison d'être, sa double signification, dit Ricoeur, comme destruction et comme libération. Destruction, libération. Il fraye la voie, c'est pourquoi c'est un passage, mais une fois de plus, qui vaut et pour le philosophe et pour le croyant, entre guillemets, il fraye la voie à une voie qui doit être au-delà de l'accusation et de la protection. Tout ça fait écho à des choses qui ont été dites de manière beaucoup plus nouée et rigoureuse par Michael. Mais on voit bien qu'effectivement, l'athéisme est ce qui permet d'en finir, entre guillemets, la structure archaïque de la religion qui devrait être surmontée par la foi. Ricoeur évoque un peu plus les deux maîtres du soupçon et on verra que cela permet de comprendre le développement de la pensée de Ricoeur, qui est déjà bien entendu en cours, mais qui est une pensée qui vient après tout le bloc qu'a évoqué Michael, celui de la trilogie de la volonté. L'un et l'autre retiennent son attention parce qu'ils pratiquent une herméneutique réductrice, c'est-à-dire une technique de l'interprétation, le mot herméneutique n'avait pas encore été prononcé aujourd'hui, une technique de l'interprétation de l'illusion. L'illusion qui est distincte, on l'a compris tout à l'heure, de la simple erreur, sens épistémologique, et du mensonge, sens moral. Une herméneutique réductrice renvoie à une sorte de, dans ce texte, Ricoeur dit toujours une sorte de, comme s'il n'était pas sûr de ces termes, c'est, à une sorte de philologie et à une sorte de généalogie. Déchiffrer le texte de notre conscience pour Freud revient à le déchiffrer comme un palimpseste sous la surface duquel un texte est écrit. Donc on rentre dans une logique du texte qui est la philologie. Freud d'ailleurs est plus valorisé que Nietzsche dans la mesure où, dans ce texte en tout cas, Ricoeur nous dit que Freud critique des représentations culturelles qui sont elles-mêmes des symptômes déguisés du désir et de la crainte. Chez Nietzsche, autant que la philologie, la généalogie correspond à une distorsion du texte qui procède, on le sait, d'un conflit d'efforts, de pulsions, de contre-pulsions, dont l'origine doit être désocultée. Vous voyez que la question de l'origine est là, centrale, à travers le travail de la philologie comme de la généalogie. Tout le travail des maîtres du soupçon va effectivement consister à montrer que l'origine n'est pas une origine temporelle, mais un foyer virtuel qui renvoie à une place vide. L'origine est une place vide, tant pour, effectivement, le métaphysicien que pour le religieux tel que Ricoeur essaye de le déplacer. Découvrir cette place comme vide est la tâche de la généalogie, la volonté de puissance chez Nietzsche, la libido chez Freud, toutes ces choses sont bien connues, mais j'insiste beaucoup sur cette question de l'originarité comme question tout à fait décisive. Parce qu'effectivement, ce qui retient Ricoeur, c'est que le philologue comme le généalogiste vont révéler l'origine idéale comme place vide. Ce qui veut dire que ce que la métaphysique a décrit comme l'intelligible, comme l'idéal, comme le bien absolu, est une place vide. Donc la destruction métaphysique va prendre la forme du nihilisme, ce qui seront des thématiques reprises très fréquemment chez Ricoeur dans les 20 dernières années de sa vie. Je pense surtout au rôle que trouvera Patochka dans cette réflexion. Donc d'un côté, au fond, les deux maîtres de soupçon visent, pour Ricoeur, là, c'est ce qu'il nous dit, la philosophie dans son histoire, dans sa version métaphysique, de même bien entendu qu'elle vise le christianisme qui, lui, est doublement visé comme vision morale du monde, celle qui a été évoquée tout à l'heure, liée à une logique rétributive, et comme un platonisme pour le peuple. Mais vous voyez que est doublement visé dans ce passage par l'athéisme la métaphysique et la religion telle qu'elle peut être critiquée dans sa double version interdiction-protection. Et donc on voit que le problème de Ricoeur dans ce texte, qui va bien entendu être lié à cette question de l'origine comme place vide et non pas comme un plein qui donne sens, est une question qui affecte autant le philosophe qu'il est que le croyant qu'il est. Deuxième temps, pas être trop long, mais là on l'aura compris, la question de Ricoeur est celle-ci, parce que le problème de Ricoeur est de poursuivre l'intrigue avec ses personnages, mais on voit qu'on a un double personnage. Le passage par l'athéisme n'est pas uniquement l'occasion de redonner sens à une foi qui serait une foi purifiée, c'est aussi une question qui se pose aux philosophes. Hein ? La question, là, on a toutes les réponses, il les pose de manière très précise. Quelle sorte d'athéisme est posé ? Dieu est mort, mais quel Dieu est mort ? Qui l'a tué ? Et quelle sorte d'autorité appartient à la parole qui proclame cette mort? On va le voir, là, l'énigme de l'origine va être redoublée en permanence par l'énigme de l'autorité. C'est, dans les aporétiques de Ricoeur, la question effectivement, de l'autorité comme de l'origine est tout à fait centrale. À ce moment-là, Ricoeur revient à Nietzsche. Nietzsche, le rebelle, l'homme au marteau, l'homme qui valorise le surhomme. Et il nous dit, c'est pour ça que j'avais évoqué tout à l'heure la figure du prophète, Nietzsche ne peut être au niveau du prophète, sans donner d'ailleurs beaucoup plus de commentaires. Son œuvre est une accusation de l'accusation, mais il en reste là. Ce qui laisse entendre qu'un prophète serait quelqu'un qui n'en resterait pas à l'accusation de l'accusation. Donc le marcheur Ricoeur est intrigué. Seule une voie était fermée, qui est celle d'une herméneutique réductrice, radicalement critique de la religion, celle de l'interdit et de la protection. Et au fond, nous dit-il, tout est ouvert après Nietzsche, et continue à poser la question, pouvons-nous reconnaître cependant une signification religieuse à l'athéisme? Quand on dit une signification religieuse à l'athéisme, ça peut être entendu de multiples manières, mais je n'y insiste pas. Mais en tout cas, certainement pas si on prend le mot religion au sens étroit de la relation archaïque de l'homme au pouvoir religieux, du sacré, ça c'est son côté Eliade à l'époque, certainement si seul le dieu moral est réfuté. Une voie est ouverte, il dit bien, celle de la foi, Michael l'a évoqué en évoquant déjà cet article, mais quitte à être contredit, quand il parle de la foi, il pose la question aux philosophes comme aux croyants, c'est-à-dire à l'homme de conviction qu'il est. On pourra dire alors, d'ailleurs, que ce thème de foi, dans les années d'après-guerre, quelque chose qui intervient chez Merleau-Ponty, par exemple, la notion de foi perceptive est extrêmement importante. Est-ce un hasard? C'est des choses qu'il faudrait pousser sans s'amuser simplement à prendre un mot. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que, de même qu'il a dit que Nietzsche n'était pas un prophète, il dit que le philosophe ne peut pas être un prédicateur prophétique, comme s'il attendait quelque part un prédicateur prophétique. C'est-à-dire que la question du prophète, qui est quand même des questions, cette question du prophète, elle n'est pas sans avoir du sens aujourd'hui, prophète du malheur ou prophète du salut, il donne un certain nombre de raisons à la difficulté pour le philosophe d'être en tout cas un prophète. Vous voyez que ces notions, le philosophe, le prédicateur, le prophète, ne sont pas du tout confondues, mais elles sont liées à un même type de questionnement, à un même type d'intrigue ou à un même type d'énigme, etc. Et là, c'est ce qui, on est en 69, ce que Ricoeur va toujours dire, cela exige un long détour, tant pour le philosophe que pour le croyant. Et toujours le marcheur qu'il est, c'est un texte où constamment il y a une sémantique de la marche, et je vais être très rapide là-dessus pour passer à ma deuxième partie, il esquisse deux pas sur cette voie détournée qui sont autant d'esquisses, deux pas qui s'offrent a priori autant aux philosophes qu'aux croyants, que l'homme de la foi post-religieuse. Le premier pas, il n'étonnera pas, c'est tout ce qui va ouvrir vers la métaphore vive, toute la question métaphorique, c'est la question du langage, c'est Heidegger qui est posé, c'est la question de l'événement de parole, c'est la poétique, c'est la poésie comme événement de parole. Il cite d'ailleurs peu de poètes, paradoxalement, ce qu'il aura fait avant dans la trilogie de la volonté, où il cite souvent Rilke, mais ici, Jacques Otter, René Char ne sont pas évoqués, par exemple. Mais on a toute une thématique de la parole qui va émerger qu'une thématique du langage, qui est celle qui va être reprise, bien entendu, par l'herméneutique. C'est le premier pas qui est évoqué de manière assez longue, mais qui colle simplement à un premier Heidegger et qui ne poursuit pas Heidegger sur la question d'ailleurs du religieux comme le fera une philosophe proche de Ricoeur qui est Françoise d'Astur. Le deuxième pas, c'est ce qu'il appelle la nécessité d'une éthique, ça a été évoqué par Michael, du désir d'être et de l'effort pour exister. Là, je serai très rapide, bien entendu. On est au centre de la réflexion avec Naber et la thématique de l'affirmation originaire, qui n'est pas sans évoquer le problème de l'origine, bien sûr. Seront évoqués ensuite des penseurs de types très différents, comme Spinoza, Leibniz. La question du désir d'être, c'est la question, effectivement, de la possibilité de faire passer du nouveau dans l'ancien et sans, effectivement, rompre l'ancien et le nouveau. Donc, si l'athéisme doit avoir, après au fil de ce texte, une signification religieuse, ce serait celui qui fait écho à ce qu'on a évoqué tout à l'heure, Michael, la foi tragique et Job, qui devient une figure tout à fait centrale. Donc, la lecture de ce texte avait juste pour but de montrer que la question de la foi, si on la prend précisément chez Ricoeur, n'est pas simplement ramenée à la question religieuse pour le croyant qui aurait effectivement pratiqué l'herméneutique réductrice. Elle est aussi posée au philosophe qui est, lui, confronté à la fin de la métaphysique. Mais, et ça m'amène à la deuxième partie qui sera rapide, de la même manière que, contrairement à d'autres, Ricoeur n'arrête pas de dire que l'on peut réengendrer la métaphysique, le problème de Ricoeur sera aussi de se demander comment n'en pas finir, ne disons pas réengendrer, de reconfigurer ce qu'on pourrait appeler le texte biblique. J'en viens juste à ce moment-là à une deuxième partie qui consiste simplement à montrer, une fois qu'on a bien saisi que Ricoeur ne donne pas de réponse au sens strict et que la question religieuse n'est pas que la question des religieux, sans aucune confusion entre philosophie et religion, on peut voir comment Ricoeur, dans ce qu'il appelait sa double vie, dans les textes qui portent sur la Bible, sur l'herméneutique des textes bibliques, etc., aborde un certain nombre de réflexions qui peuvent faire écho à la double énigme de l'origine et de l'autorité. C'est la double énigme au sens où il y a toujours antériorité de l'origine, antériorité, je citerai un texte pour bien le montrer, antériorité de l'autorité. Très vite, pour ne pas dépasser le temps, on voit très bien que les deux pas esquissés nous conduisaient, un, du côté du langage, et deux, du côté du désir d'être. On voit très bien que d'un côté, dès lors qu'on se déplace sur la question religieuse, Ricoeur va être très présent sur l'herméneutique des textes bibliques, avec une réflexion extrêmement forte, me semble-t-il, sur ce qu'il va appeler les langages bibliques, justement. Et donc ça, c'est le côté herméneutique des textes, avec toute la réflexion, mais on va en parler tout à l'heure, post-bultmannienne, et liée à la démythologisation. Et de l'autre côté, nous avons toute une réflexion lié justement au problème, ce qu'on peut appeler la capacité de régénération, qui amène une thématique qui est très centrale chez Ricoeur, qu'on trouve à la fois en philosophie et dans sa réflexion dite religieuse, entre guillemets, c'est la question du témoignage, qu'il va trouver chez Naber et qui est bien entendu une question centrale pour le croyant, puisque l'herméneutique du témoignage est indissociable aussi d'une histoire religieuse qui n'a de sens que par le passage indéfini des témoins. Donc on a cette double option, herméneutique des textes, herméneutique du témoignage. Je rappelle d'abord, je vais évoquer trois thèmes. Chez Ricoeur, en permanence, dans des textes qui ne sont pas les plus connus, on a une réflexion sur Athènes et Jérusalem, c'est-à-dire sur ce qu'il appelle la grammaire hébraïque et la grammaire grecque, c'est-à-dire la philo. Et là, il y aurait tout intérêt aujourd'hui, je pense, à revenir sur beaucoup de ces textes avec cette idée que la philosophie ne trouve pas ses sources en elle-même, mais hors d'elle-même. Les sources, une fois de plus, c'est les textes sur le prophétie, sur le tragique, sur Pascal, sur Rousseau, sur la philosophie politique, sur les passions, etc. Il y en a beaucoup, voilà. Ensuite, il y aurait toute une réflexion à voir qui est là, présente des histoires et vérités, sur les présocratiques et sur la question du commencement, au sens où je l'ai dit de tout à l'heure. Le principe n'est jamais le premier des premiers. Le principe qui est un commencement n'est pas l'origine. Le principe, l'arché, il cite Anaximandre, n'est que l'idée de quelque chose qui fait commencer le reste sans avoir soi-même de commencement. Donc vous voyez bien, commencement chronologique n'est pas origine, qui est une antériorité toujours repoussée. Ce serait la première gerbe de réflexion qu'on pourrait mettre en avant, tout ça pour pister, c'est un peu le but de la journée aussi. Ensuite, on a le grand détour, et je n'ai pas la compétence, mais c'est un détour qui me fascine, justement, qui est le grand détour par l'herméneutique biblique, qui va amener à des réflexions diverses. Là, tout d'abord, le front, la réflexion sur la mythologie avec Bultmann, mais on va y revenir, qui est assez complexe. et la réflexion centrale avec le structuralisme, c'est-à-dire avec la lecture structurale à Lévi-Strauss, les mythologiques. C'est tout le débat qu'il y avait eu dans la revue Esprit, mais qui était très mal interprété, qui mérite qu'on y revienne aujourd'hui. Est-ce qu'effectivement la lecture structurale de Lévi-Strauss permet de comprendre le texte biblique lui-même et donc le type de civilisation comme la civilisation judéo-chrétienne qui est portée par des événements fondateurs, par une historicité, par des, et non pas par effectivement le type de support qui est celui de Lévi-Strauss dans les mythologiques, à savoir les mythologies liées essentiellement à totems et tabous, etc. On pourrait en dire plus long là-dessus, mais c'est très important, c'est un premier point, c'est en quoi la lecture structurale nous aide à lire le texte biblique. Ensuite, là, il va être amené à réfléchir, bien entendu, sur la Bible, grâce à toute sa réflexion sur la métaphore qui n'est pas une simple transposition, mais qui est toujours une reconfiguration. Donc, le biblique est porté par le métaphorique, et ça, c'est extrêmement important. Je voudrais juste faire, à ce propos-là, quelques remarques sur sa réflexion sur le temps biblique, parce qu'elle nous amène à des réflexions qui pourraient nous aider à réfléchir sur les temporalités contemporaines. Il y a trois types d'approches que peut avoir Ricoeur sur la Bible. Lecture parcellaire, lecture globale. Lecture globale, il renvoie, je n'ai pas le temps d'évoquer, mais au grand code de Frey, qui est quelque chose d'extrêmement important. Mais ce qui va intéresser Ricoeur, c'est de montrer que la Bible n'est pas un texte qui est un début et une fin, justement un commencement et une fin. Ce que, selon lui, laisse entendre l'école de l'histoire du salut, à Heilsgeschichte. Mais la Bible est un grand intertexte, un intertexte qui est indissociable de plusieurs genres littéraires qui renvoient à des temporalités différentes. Pour lui, réfléchir sur la Bible, c'est dire comment s'affectent mutuellement des temps différents. Le temps des récits, le narratif. Mais justement, le narratif ne résume pas le biblique. Le temps des lois, le temps des prophètes, le temps des paroles de sagesse, le temps des hymnes, tous ces temps permettent de composer un temps intertextuel qui est dénommé le temps biblique. On voit très bien comment aujourd'hui, ce qui serait intéressant, c'est de... Je n'ai pas le temps de le faire, on peut peut-être revenir dans la discussion. C'est comment, chez lui, le temps prophétique est un temps tout à fait décisif. Et surtout, bien comprendre que le temps narratif, donc... celui qui met en valeur dans temps et récit, n'est pas la seule temporalité. Et enfin, qu'il y a, dès la tradition juive, un lien, une conjonction entre la loi et les récits, entre la loi et le narratif, c'est-à-dire entre le prescriptif, la Torah, et le narratif. La loi est toujours elle-même reconfigurée dans une histoire. Il n'y a pas une loi qui sera un commencement. La loi est toujours reprise dans une historicité. Il faudrait, je ne veux pas abuser du temps, revenir sur la littérature sapientiale auquel il accorde extrêmement d'importance, qui est proche, au fond, du discours philosophique, qui est une temporalité sans événement, et la temporalité qui concerne les hymnes et les psaumes, qui sont pour lui le temps du aujourd'hui et du en tout temps. Il y a donc plusieurs temporalités qu'il faudrait ressaisir, comme celle du temps biblique, où la temporalité, je dirais, philosophique est une parmi d'autres. Je ne dis pas ça pour la résumer. Oui. Je termine sur un point qui a déjà été évoqué, c'est le troisième champ qui me paraît extrêmement important, évoqué par Michael à propos du mal, c'est la question de l'origine de l'autorité. C'est-à-dire que le problème, et là ça touche le religieux, le problème effectivement de l'énigme du pouvoir et de l'autorité est indissociable aussi de ce qu'on a appelé déjà plusieurs fois l'énigme de l'antériorité. Je vais juste lire un texte. Avant la loi morale, il y a toujours une loi morale. Comme avant César, il y a un autre César. Avant la loi mosaïque, il y a les lois mésopotamiennes. Et avant celle-ci, il y en a d'autres encore. On est en présence d'une sorte de toujours déjà là qui fait que la recherche d'un commencement daté échoue devant la perspective de l'origine. C'est comme s'il y avait une dialectique de l'origine et du commencement. Le commencement, on voudrait pouvoir le dater dans une chronologie, mais l'origine fuit toujours derrière, en même temps qu'elle surgit dans le présent sous l'énigme du « déjà, toujours là ». Alors vous voyez que cette question de l'énigme, qui vaut autant pour, la question, pour le religieux que pour le philosophique, affecte essentiellement le problème de l'origine et le problème de l'autorité. Il a un petit passage, et là vous avez, on peut, et ça, ça serait d'actualité, bien sûr comprendre qu'au-delà du théologie politique, ce problème de l'autorité affecte aussi bien l'État que l'Église. Quand il dit l'Église, je ne sais à quoi il réfère. Mais cette question est tout à fait centrale, c'est-à-dire qu'au-delà de tous les débats évoqués, le problème du politique est aussi le problème du pouvoir, en tout cas du pouvoir ecclésial, quand il fait mal parce qu'il est pris dans des visées de totalisation. Pour conclure, je voudrais juste terminer sur deux points, en montrant qu'il y a aussi toujours, cette réflexion sur la reconfiguration, pas uniquement du texte biblique, qui nous renvoie à un débat que connaît bien Michael Fessel, qui est le débat concernant le rôle de l'imagination chez Ricoeur. Là, je renvoie à un petit texte qu'il a pu faire, qui était lié à une intervention orale sur le Moïse et Aaron de Schoenberg, qui effectivement montre que on est toujours pris dans l'inimaginable qui nous oblige à faire des images. Je pense que cette réflexion sur l'inimaginable, je ne peux pas représenter celui dont a parlé Michael, Dieu, mais je ne peux pas ne pas produire de l'image. Une question qui est quand même très contemporaine. Il l'évoque à propos de Schoenberg. Et je voudrais terminer, parce qu'on a peut-être un retournement, sur un texte beaucoup plus récent de la fin des années 90, qui s'appelle, pour ceux qui connaissent bien Ricoeur, qui à l'époque travaille sur le mode capable, l'homme capable, donc l'homme capable, l'homme qui a des capacités. C'est un texte qui s'intitule « Le destinataire de la religion, l'homme capable ». Donc là, il renverse totalement la chose, parce que c'est l'homme capable qui doit montrer sa capacité à bénéficier, justement, d'une adhésion à ce que j'appellerais des croyances post-religieuses. Mais vous voyez que le problème n'est plus la religion et l'homme capable, c'est parce que l'homme est capable qu'il peut effectivement adhérer à des croyances religieuses qui peuvent le, pour parler comme ça, le rendre meilleur. Donc cette question sur la capacité est centrale, l'homme capable, qui est l'homme capable aujourd'hui, elle renvoie, et je m'arrête, à ce qu'a été effectivement le point de départ de la religion critiquée par les maîtres du soupçon, c'est-à-dire de l'homme qui n'était pas capable de son autonomie et qui effectivement, par incapacité, était l'homme qui se soumettait aux religions de l'interdiction et de la protection. Voilà, donc on voit que ces passages par l'athéisme sont quelque chose qui font beaucoup résonance aujourd'hui, mais je voulais insister parce que c'était ma surprise à la lecture de ces textes, que la question du passage par l'athéisme est une question qui est renvoyée aux religieux comme aux philosophes. Merci à vous.
Merci Olivier. Bon, je leur ai laissé un peu plus de temps puisque on a commencé un peu plus tard, hein, donc on a quand même, on peut prendre quelques minutes pour deux trois questions et ensuite on fait la pause. Voilà, alors deux trois questions. On va leur demander d'être rapide pour répondre aussi, si possible. Oui. Attends une seconde, je crois qu'il va. Non, mais derrière on t'entend pas. C'est essentiel qu'on t'entende.
On peut le présenter, Jean-Loup Thébault, qui fait de la philosophie voilà. Depuis quelques lustres.
Jean-Loup Thébault, voilà. Oui, mets-toi debout, comme ça tu... Je retraduirai.
À propos de l'allusion sur Job. Bon, bien sûr, alors la question que je me pose, c'est quand même aussi bien. Retrouver tout au centuple. Cette question est. Pas de restitution.
Il
que les choses puissent recommencer. C'est-à-dire qu'effectivement, que l'histoire ne soit pas terminée, on recommence tout à nouveau, et même d'une certaine manière, si je puis dire, de manière décuplée ou centuplée. Donc, c'est la question que je reposerai. Ce n'est pas exactement la consolation. C'est ça que je ne comprends pas encore une fois, si tu veux. Job, il réclame plus qu'une consolation. Il réclame effectivement de retrouver ce qu'on lui a pris. Bon, et disons-le un peu autrement, que l'histoire puisse recommencer à nouveau, sous de nouveaux frais, d'une manière même effectivement encore plus vivante, originale, ce que tu voudras. C'est plus, me semble-t-il, est-ce que ça s'appelle encore une consolation? C'est la question que je me poserai, c'est tout. Enfin, c'est pas une question, c'est une remarque. Voilà. Excuse-moi de t'avoir dérangé.
Tu veux dire quelque chose? Tu veux? Oui.
Oui.
Est-ce que Job attend mieux?
Il attend la rétribution, mais la rétribution ou la logique de la rétribution, c'est tout aussi bien celle des amis. Avec des amis comme ça, on n'a pas besoin d'ennemis, qui viennent précisément le convaincre, tenter de le convaincre que s'il souffre, c'est qu'il a péché nécessairement. Bon, or les amis sont désavoués par Dieu. Bon. Alors effectivement, la thématique que tu évoques, c'est une thématique plutôt de Kierkegaardienne, le Seigneur a pris, le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, loué soit le Seigneur, c'est-à-dire celle qui pose au fond une
foi. La foi pense que c'est impossible.
Voilà. Voilà. Alors non, justement, ça ne revient pas. C'est-à-dire qu'il y a un élément sur lequel Ricoeur, qu'il ne commente pas, qui est celui de la. Alors, le mot est difficile, c'est pas restitution, mais au centuple, tu l'as dit, enfin c'est au double en vérité d'ailleurs, quand même pas au centuple, de la femme, des enfants, enfin on n'a jamais très bien compris d'ailleurs ce que ça pouvait vouloir dire pour la femme, bon. Mais le fait est que ce n'est pas un retour à l'identique de ce qui a été perdu. Donc évidemment, c'est une surabondance par rapport à ce qui. Ben oui, mais la consolation n'est pas étrangère à la logique de la surabondance. C'est pas la répétition, parce que c'est la différence. Bah, tu prends même par exemple Deleuze, ce qu'il dit de Job, y compris le chevalier de la foi, dans Différence et répétition, il montre bien, enfin, dans un tout autre but, hein, évidemment, hein, que Ricoeur, qu'il n'y a pas de retour à l'identique, et donc pas non plus vraiment de répétition, mais en réalité. Une forme de nouveauté, d'altérité dans ce qui. Alors évidemment, on ne peut pas surinterpréter, c'est libre du commentaire de savoir ce que Dieu a voulu, enfin Dieu. Bon, ce que le texte veut signifier lorsqu'il dit qu'effectivement, Job, mourra rassasié de jours, et bon, il y a là une indétermination. On est vraiment à la frontière, effectivement, là je te l'accorde, entre rétribution. Et consolation, mais si j'insistais moi sur le côté consolation plutôt que réconciliation, c'est qu'à aucun moment en revanche le discours de Dieu n'offre d'explication et de justification à l'épreuve qui a été vécue. Voilà.
Bon, une autre question ? Oui.
Bonjour, Jean-Pierre Vabre. Je voudrais revenir sur la question du mal tel que l'a traité Michael Fessel, sur le mal radical. Et je me demande si chez Ricoeur, tout au moins dans la permanence de sa vie, cette question a été maintenue jusqu'au bout. Je pense à deux choses. Lorsque Ricoeur examine la culpabilité allemande après la Deuxième Guerre mondiale, il prend bien soin de distinguer, contrairement à d'autres, différents niveaux de culpabilité qui sont politiques, celle du peuple allemand, celle du nazi, celle, etc. Donc il semble bien qu'il mette des paliers, disons, dans la culpabilité. Et je repense à tout à fait autre chose, à une phrase, je ne sais pas si elle est de lui, mais que quelques-uns lui ont prêté, sur là où abonde le mal, abonde aussi la surabondance. Voilà. Est-ce que ce fait que le mal soit d'une certaine façon lié à la surabondance n'efface pas un petit peu le caractère tragique et absolu de cette conception du mal?
bon, alors là où abonde le péché, abonde aussi la grâce, surabonde la grâce, pardon, c'est chez un Paul, mais enfin, pas celui qui nous occupe ici. Mais la position de il y a là où, enfin, si je comprends la question, il est clair que Ricoeur n'envisage pas la question du mal, et du mal radical en particulier, bon, qui est un concept de Kant, du point de vue de la tragédie au sens premier du terme, puisqu'il y a chez lui, comme dans la tradition d'ailleurs chrétienne dans laquelle il s'inscrit, il y a peut-être un caractère insondable du mal, on ne peut pas en connaître, en déterminer l'origine, mais de facto, effectivement, l'espérance ou l'action sont des répliques possibles à un mal qui ne se situe pas dans les structures de l'être, si l'on veut. Bon, c'est d'où l'effort qu'il a aussi à la suite de Kant de distinguer entre le mal et la finitude, ou la fragilité, comme pour reprendre sa terminologie à lui. Le mal n'est pas simplement coextensif à la fragilité ou à la finitude humaine, ce qui pourrait être le cas, disons, dans une lecture du mal tragique, c'est-à-dire du mal ontologique, disons, que l'on peut reconstituer à partir de la tragédie grecque. Par contre, il parle bel et bien à propos, et je pense qu'il est, enfin c'est même certain, parfaitement conscient du caractère un peu subversif, étonnant. Il parle à propos de Job, donc d'une figure fondamentale du judaïsme et du christianisme, de foi tragique. Donc il intègre dans le, on peut le reprocher d'ailleurs, il intègre dans le schéma religieux chrétien, monothéiste, un terme qui a quand même une charge qui, évidemment, renvoie à un univers de sens totalement étranger. Pourquoi le fait-il? Ben, je pense que, pour lui, si la foi n'est pas tragique en dernière analyse, elle doit intégrer un moment tragique. Et le moment tragique, c'est le moment du doute relativement à la... quand il parle du tragique, il parle souvent de la théologie du dieu méchant ou des dieux méchants. C'est-à-dire un moment de doute relativement à la transparence, disons, de Dieu lui-même ou à la possibilité même d'accéder à un savoir de Dieu qui nous prémunisse totalement de la possibilité même du tragique, autrement dit un savoir théologique. Donc, effectivement, la pensée du mal chez Ricoeur, est plus compliquée. Sur la culpabilité, ça appellerait d'autres réflexions qu'on peut pas développer maintenant, parce que il y a quand même dans la question de la culpabilité collective ou la culpabilité individuelle, il y a toute la question du rapport entre très important dans les années 50, 45, 50, entre Ricoeur et Jaspers, c'est la question de la culpabilité allemande, de la culpabilité collective. Il est clair que Ricoeur ne reconnaît pas de validité à l'idée d'une culpabilité collective, qu'il cherche aussi à rendre droit à l'individuation de la peine et de la faute et du mal dans la modernité.
Tout à l'heure, après l'exposé de Guilhem Kos, on aura une demi-heure de questions. Donc maintenant, je crois qu'il faut faire une pause. Il faudrait essayer vraiment de commencer à 11h20 pour qu'on respecte de nouveau nos horaires. Merci. À tout à l'heure.